Bien, bonjour chères auditrices et chers auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Culture Flip. Aujourd'hui, nous allons vous parler de sujets axés sur la musique avec nos deux chroniqueurs qui vont vous présenter leur chronique axée sur la musique. Alors, nous allons écouter Laurine.
Bonjour. Ils sont tous différents, sont produits aux quatre coins du monde, ont rassemblé des milliers de personnes et sont ancrés dans le temps. Vous voyez de qui je veux parler ? Ou du moins de quoi ? Car oui, en effet, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux festivals. En France, en 2018, les festivals ont regroupé à eux seuls 7 200 000 festivaliers. La question que l'on peut tous se poser, c'est comment ces festivals sont-ils entrés dans l'histoire ? Mais déjà, faut-il savoir ce qu'est un festival, n'est-ce pas ? Un festival est une manifestation consacrée à un type d'expression artistique organisée à une époque fixe et récurrente chaque année d'une durée d'un ou plusieurs jours. Un festival peut servir par exemple à promouvoir un genre de musique. Pour répondre à cette question, nous allons premièrement consacrer une petite partie sur l'origine de ce mot, c'est-à-dire comment est né tout simplement le festival. Ce terme est apparu dans le nord de la France en 1829 et est lié au mouvement orphéonique, qui est un mouvement festif et musical de masse. En 1939, en France, de même qu'en Europe, il existe peu de festivals. Néanmoins, trois d'entre eux ont une réputation et un public international, comme le Festival de Bayreuth, le Festival de Salzbourg et le Festival des Arènes de Vérone. Tous trois sont des festivals de musique classique et d'art lyrique. C'est après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est développé, avec l'arrivée du Festival d'Édimbourg en Écosse, qui est un festival international créé en 1947. Qui ne se consacre plus seulement à un mouvement musical de masse, mais à tous les arts de scène. Nous allons nous concentrer sur les festivals musicaux et plus précisément en quoi les festivals musicaux en sont devenus culturels. Pour cela, nous allons prendre différents exemples pour montrer l'influence qu'ont eu les plus grands festivals sur le monde. En 1969, le festival de Woodstock a été un grand événement qui a marqué l'histoire. Dans toutes les générations, le mot Woodstock évoque quelque chose. Si le festival entre dans l'histoire en un week-end seulement, c'est parce que dès le départ, il est victime de son succès. Organisé du 15 au 18 août 1969 dans un petit bourg de l'État de New York, le festival devait accueillir 50 000 personnes. C'est finalement presque un demi-million qui ont changé le cours de l'histoire de la musique. Ça bouchonne sur les routes pour se rendre dans cette grande plaine de Bethel. Les festivaliers s'installent n'importe où, plantent leurs tentes n'importe comment dans la pure tradition hippie. C'est un des plus grands moments de l'histoire de la musique populaire, classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l'histoire du rock'n'roll, apothéose du mouvement hippie. Il y a déjà 50 ans que ce festival a été créé. L'événement a été immortalisé par le film Woodstock de Michael Handling. Plusieurs morceaux joués durant l'événement deviendront légendaires, comme le Star Spangled Banner qui est l'hymne des États-Unis. Woodstock est devenu une légende, et s'il est resté aussi présent dans les esprits, c'est bien parce qu'il est non seulement un événement musical, mais aussi un événement historique, exprime un témoin de Woodstock. En quelques mots, le festival de Woodstock, c'est l'apothéose du mouvement hippie. Mais d'autres festivals comme Coachella ou Tomorrowland sont aussi entrés dans l'histoire. Le festival Coachella est considéré comme l'un des plus grands festivals annuels aux États-Unis et dans le monde. C'est à la fois un événement musical, artistique et médiatique. Le festival de Coachella est devenu célèbre pour la variété des tenues portées par les participants, qui inclut principalement des combinaisons de couleurs et de matières éclectiques, ainsi que l'empreinte d'éléments traditionnels à des cultures minoritaires aux États-Unis. D'après un classement réalisé en 2015 par Viagogo, Coachella est le deuxième festival musical du monde, derrière Tomorrowland. Et oui, vous en avez déjà entendu parler ?
Oui, j'ai déjà regardé des vidéos sur YouTube il n'y a pas longtemps. Et toi, Esteban ?
Bien sûr, c'est réputé. Après, j'ai pas plus de connaissances sur ce festival.
Ouais, et il me semble que Sophie, elle a quelques anecdotes à nous raconter à ce sujet, n'est-ce pas ?
On t'écoute.
Raconte-nous des anecdotes.
Des anecdotes, il y en a énormément. Quand on se retrouve sur 4 jours de festival, à dormir 3 heures sur les 4 jours, oui, parce que...
La fatigue doit être présente quand même.
Ouais, on est d'accord. Le soir, on est là, on est au concert. Le matin, on se réveille, on est toujours pas endormi et on doit repartir sur les concerts. Ouais, on se retrouve des fois à dormir à 5 dans des tentes de 2.
Ah ouais, quand même.
Mais bon, mais c'est sympa, c'est des expériences à vivre.
Ça ne m'attire pas trop. Hein. Ça doit puer la sueur.
Je suis pas trop confiant sur ce genre de choses.
Donc merci Sophie de nous avoir présenté tes anecdotes.
Donc Tomorrowland est un festival de musique électronique organisé au mois de juillet sur le site du domaine provincial de Choraboum, dans la province d'Angers en Belgique. En 2013, le concept s'exporte de façon éphémère aux États-Unis près d'Atlanta et devient pour l'occasion Tomorrowworld. 2 ans plus tard, en 2015, un festival sous le nom de Tomorrowland se tient dans un troisième pays, au Brésil. En 2019, le festival belge met en place Tomorrowland Winter en France, en montagne à l'Alpe d'Huez. Ces trois festivals tels que Woodstock, Coachella et Tomorrowland sont des festivals qui ont marqué l'histoire, ils ont marqué les esprits à travers le temps et ont laissé des traces à travers le monde. Aujourd'hui, des festivals sont présents un peu partout dans le monde, petits comme grands, ils continuent à marquer les gens à leur manière.
Donc merci pour ta chronique, Laurine. Donc déjà, est-ce que tu as déjà participé à un festival ?
Non, moi je n'ai jamais participé à un festival, mais j'ai eu des échos positifs sur ça. Donc je pense que je vais prendre l'initiative
d'y aller. Et toi, Esteban ?
Non, jamais aucun festival et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. C'est trop d'émotions pour moi, je préfère
trop d'émotions,
rester
ouais,
à la maison.
D'accord. Donc Sophie, comme elle nous a raconté des anecdotes, vous vous doutez qu'elle a déjà été. Donc maintenant, on va écouter la chronique d'Esteban qui est toujours axée sur la musique et les manifestations.
Alors moi, je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que la musique adoucit vraiment les mœurs ? Je vais vous passer un son extrait de la musique folk le 17 du groupe 13 Blocs. C'est parti. Nique la police, nique la police. Confronté au force de l'or. Nos journées font leur salaire. Fuck le 17. Nos journées font vos salaires, fuck le 17, ces provocations deviennent presque une habitude dans le rap. Si vous êtes choqué, c'est tout à fait normal. Depuis quelques temps maintenant, la France a fait ressurgir cet état d'esprit de rébellion avec de nombreuses manifestations permettant ainsi à plusieurs anciennes musiques de revivre un second souffle pour elles, car elles refont l'actualité. Effectivement, la France prend une mauvaise tournure depuis les Gilets jaunes. Les manifestations de brigades de pompiers ont fait la une des journaux, tout d'abord parce que ce sont des fonctionnaires et que des affrontements ont eu lieu contre des policiers. La profession de pompier est jugée d'être au bord de l'asphyxie ou encore à bout de souffle. En effet, étant au bord de la crise de nerfs, ils pointent du doigt leurs conditions de travail et demandent à les améliorer. De nombreuses vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, vous les avez sûrement vues, notamment avec un pompier témoignant s'avoir pris une balle par un policier. Quant aux policiers, eux aussi manifestaient avec une marche de la colère dans les rues de Paris le 2 octobre. Celle-ci était moins violente et a donc malheureusement moins fait parler d'elle. Faut-il donc être violent et rebelle pour se faire entendre ? C'est la question que nous avons posée lors d'un micro-trottoir.
Avec la dernière personne qu'on a interrogée, Thierry, lors du moment où on préparait la question, on était en train de parler de Greta Thunberg et on se demandait si elle, justement, elle était rebelle ou non. Malheureusement, on ne l'a pas enregistrée, mais est-ce que pour vous, son message qu'elle a fait passer, elle a réussi à le faire passer sans être rebelle ou si justement pour vous, vous la voyez un petit peu comme une rebelle? Je suis avec Ethan, âgé de 15 ans, donc j'aimerais te poser une question. Est-ce que pour toi, de nos jours, il faut être rebelle ou violent pour se faire entendre?
Bah, dans un certain cas, je sais pas, mais en tout cas, dans le foot, les supporters, pour montrer leur désaccord et se faire entendre, ils sont obligés de faire des banderoles ou envahir le terrain ou montrer et avoir des propos violents.
Merci.
Donc maintenant, on va interviewer Rachel Thibault, étudiante au lycée Alexandre Ribot. Est-ce que vous permettez que je vous pose une question?
Oui.
Donc, est-ce que pour vous, il faut être violent ou rebelle pour se faire entendre lors des manifestations?
Donc malheureusement, de nos jours, je pense que oui. Il faut être violent pour se faire entendre. Il faut avoir recours à la violence physique comme à la violence morale. Et beaucoup d'événements nous le montrent. Donc comme les manifestations des Gilets jaunes, beaucoup de magasins ont dû fermer, comme par exemple dans les Champs-Élysées.
Alors bonjour Thierry, vous êtes âgé de 37 ans. J'aimerais vous poser une question. Pour vous, faut-il être rebelle pour se faire entendre de nos jours?
Rebelle pour se faire entendre? Je dirais qu'au contraire, non. Je dirais que plus on est rebelle et moins on est entendu, que les idées véhiculées dans l'opinion publique sont loin d'être belles en général, et que on est plutôt dans la norme. Pour être entendu, il faut plutôt être dans la norme. Et pour moi, à part des gens qui ont gagné le cœur de la population, je veux dire des chanteurs populaires ou des gens comme ça qui peuvent transmettre des idées rebelles dans des chansons, c'est quand même rare d'être entendu avec des idées rebelles.
D'accord, voilà. Merci bien.
En tout cas, c'est l'avis de nombreux artistes opposés aux forces de l'ordre. Le lendemain est survenue l'attaque de la préfecture de police et c'est là que la chanson de Renaud, J'ai embrassé un flic, prend une connotation symbolique émouvante et d'autant plus que cette chanson a été écrite et enregistrée par un artiste qui n'a jamais caché ne pas appartenir au camp de l'ordre. Malgré qu'il soit anarchiste, il a enlacé un policier qui l'escortait lors d'une manifestation. C'est sa façon de montrer sa solidarité sans oublier ses valeurs personnelles, car dans son clip, on aperçoit à sa tenue qu'il reste un rebelle avec sa veste en cuir et ses Santiago. Cependant, beaucoup d'artistes restent des rebelles dans l'âme, adeptes aux manifestations et des opposés à l'État. Ils le font même savoir dans leurs chansons. Voici quelques exemples de musique. Par exemple, il y a Jean Jonas avec le titre Flic de Paris qui date de 1968, qui désigne les flics comme des larbins de l'État, faisant comprendre que les policiers sont à la recherche d'autorité, une autorité dont ils abusent. Il y a aussi Dominique Grange avec le titre Abat l'État policier, encore une fois en 1968, où elle dénonce les violences policières et leur mentalité. Le fameux groupe Suprême NTM avec le titre Police de 1993. Quant à eux, ils évoquent le manque d'humanisme de la police. Il y a encore Sins et Milia en 2004 avec le titre Plus de flics, qui critiquent de façon ironique les hommes politiques quant à leur décision d'agrandir les effectifs de police. Et bien sûr, le fameux titre Hexagone en 1975 de Renaud, où il déclare sa pitié et son dégoût envers les policiers qu'il décrit comme des moutons et se moque de leurs différentes habitudes. D'ailleurs, rassurez-vous, il est toujours vivant, toujours la banane, car il a sorti un nouvel album le 29 novembre, intitulé « Les mômes et les enfants d'abord », dont l'illustration du disque a été réalisée par le fameux Zep, qui est le dessinateur de Titeuf, à mon avis tout le monde le connaît. Chaque chanteur a son univers, mais chaque univers a des limites à ne pas dépasser, et malheureusement, plus les années passent, plus les limites sont dépassées, notamment avec l'arrivée du rap. Le message est toujours le même, mais le style musical et la façon de communiquer la colère n'est plus la même, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour ma part, je trouve que les artistes ont trop d'influence sur leurs fans pour traiter sur le sujet de la police. Ils influent sur le comportement de certains à l'égard de la police, sur les tenues vestimentaires ou même encore sur le dialecte, par exemple.
Donc tu vois, moi, dans ta chronique, il y a une question qui m'a particulièrement choqué, surpris, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est est-ce que pour se faire entendre, il faut être violent? T'en penses quoi, réellement?
Comme je l'ai dit, malheureusement, on est beaucoup influencé par les groupes de musique et notamment les groupes de rap. Et plus les années passent et plus on est influencé et on est trop facilement influencé. Et ça n'évolue pas au fil des années avec l'apparition des groupes de rap. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc oui, pour moi, actuellement, c'est plus facile, en tout cas. Il ne faut pas forcément être violent pour s'entendre, mais c'est plus facile de s'entendre quand on est rebelle et violent.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi, Laurine, t'en penses quoi?
Moi, je pense aussi qu'il faut être violent pour se faire entendre, car sans violence, rien ne bouge. Mais il faut rester correct, parce que les manifestations, c'est bien, mais il y a certaines limites.
Moi, je vais vous dire mon avis. Pour moi, il faut être violent pour se faire entendre. Je ne suis pas pour, mais c'est la seule manière de se faire entendre de nos jours. Comme avec la manifestation des Gilets jaunes, en fait. Si ça serait resté pacifique, s'il n'y avait pas eu de casseurs, s'il n'y avait pas eu d'événements là-dessus, ce serait passé qu'un soir sur BFM et puis on n'aurait plus entendu parler. Ouais. Là, c'est parce qu'il y a eu des incidents graves, comme la flamme du soldat inconnu qui a été éteinte. Mais ça, c'est franchement dégueulasse. Et voilà, c'est...
Mais ils ont réussi leur coup.
Ouais, c'est ça, ils ont réussi à se faire entendre. Donc merci Esteban de nous avoir présenté ta chronique et qu'on ait pu débattre à ce sujet.
Pas de problème.
Donc maintenant, je vais vous présenter ma chronique qui est axée sur d'anciens chanteurs et albums qui redeviennent populaires. Donc, est-ce que vous connaissez les Beatles?
Oui, bien sûr, c'est des légendes quand même.
Donc figurez-vous que ce mois-ci, en fait, il y a leur album qui redevient en tête des ventes 50 ans après. Donc je précise que c'est leur album les plus populaires. Donc est-ce que vous connaissez Abbey Road?
Oui, on le voit beaucoup passer dans les magasins, avec la photo iconique avec le passage piéton.
Donc si vous ne connaissez pas cette photo, je suppose que vous l'ayez déjà vue. Donc on y voit les Beatles qui traversent un passage piéton dans la même rue du nom de l'album Abbey Road. Les Beatles, ils se sont formés en 1960 par Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison, et ils deviennent un des groupes les plus populaires de tous les temps. Et en 1970, John Lennon, créateur des Beatles, arrêta le groupe pour plusieurs raisons, donc ils ne s'entendaient plus sur certains points. Donc on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la musique elle a pris une place très importante dans notre vie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, depuis les années 2000, c'est le rap qui domine le marché musical. Mais ça n'a pas toujours été le cas, je sais pas si vous êtes d'accord.
Non, pour moi, il domine le marché depuis, je pense, 2010 à peu près.
Ouais. Après, dominer le marché, c'est peut-être un gros mot, mais ça avait une grande notoriété dans
ouais,
les années 2000.
Ils étaient déjà présents, mais ouais, aussitôt, vois, je ouais. sais pas vraiment.
Je sais pas si vous avez vu, mais ces dernières années, il y a beaucoup d'albums et chanteurs qui redeviennent populaires. Donc ensuite, c'est au tour de John Lennon avec son album sorti en 1971 qui redevient la mode avec sa chanson phare Imagine, qui envoie un message de paix dans le monde. Il est sûrement avec Paul McCartney l'un des plus grands chanteurs-compositeurs du XXe siècle. Donc sa carrière solo, elle commence après les Beatles en 1970 avec sa compagne Yoko Ono. Et il met sa carrière en pause en 1975 pour s'occuper de son fils. Malheureusement, il sera assassiné en 1980 devant sa femme à l'entrée de son hôtel. Il est tué par balle par un homme qui cherchait à se faire un nom.
C'est con ça.
Ah, c'est vrai que c'est dommage. Sa mort bouleversera le monde entier car il inspira la paix dans le monde et aujourd'hui il l'inspire toujours autant. Donc maintenant, je vais vous parler d'un personnage iconique des années 70, voici Elton John, qui grâce à son biopic en 2019 redevient populaire. Donc Elton John, c'est un personnage charismatique, ne cachant pas son homosexualité, de par ses tenues extravagantes en concert et ses diverses déclarations dont le fait qu'il est homosexuel face à la presse. Il écrit beaucoup de chansons personnelles, des chansons auxquelles on peut s'identifier. Elton John est un personnage qui revient de très loin de par une enfance difficile. Il a connu de graves problèmes d'addiction tels que la cocaïnomanie, la toxicomanie, l'alcoolémie et l'addiction au sexe. Il montre son combat à travers la chanson « I'm still standing », autrement dit « Je suis toujours debout ». Cette chanson elle est très très populaire car elle est source d'inspiration pour chacun de nos combats et ça fait maintenant 28 ans qu'il est clean comme indiqué dans son biopic et sur internet. Donc j'ai une petite anecdote, Elton John il était très proche de Lady Diana, autrement dit Lady Di, et il a chanté à son enterrement. Il est également très proche de John Lennon et de Freddie Mercury. Est-ce que vous connaissez des groupes connus?
Oui, U2.
Ouais, U2.
Après il y a Queen par
exemple. Ah bah tiens, en parlant de Queen, je vais vous parler de Freddie Mercury, qui est l'un des membres de Queen, et c'est sûrement l'un des plus grands groupes de rock après les Beatles. Donc l'année dernière, il y a un biopic, Bohemian Rhapsody, qui était sorti sur ce groupe au cinéma, et qui a rendu le groupe extrêmement populaire. Donc Queen, fondé dans les années 70 par Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, sort en 1975 l'album A Night at the Opera, et cet album sera un immense succès et donnera une grande notoriété mondiale au groupe. Comme Elton John, on peut s'identifier dans certaines de ses chansons. Le groupe est au sommet en 1985 grâce à leur performance au Live Aid qui enflamma le public. Quelques années plus tard, Freddie Mercury s'éteindra à cause du sida en 1991, et aujourd'hui, lui et son groupe sont toujours autant populaires. Donc on peut remarquer que tous ces groupes et chanteurs sont britanniques et que la majorité de ces artistes ont participé au Live Aid en 1985. Tous ces chanteurs et autres bien sûr comme Elvis Presley et Michael Jackson ont marqué deux générations, la leur et la nôtre. Donc merci d'avoir écouté en espérant que ça vous ait plu. Je vais remercier mes chroniqueurs Esteban et Laurine et notre technicienne Sophie.